C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités. Cette semaine, sans mon acolyte Simon, nous sommes le jeudi 30 janvier et nous consacrons aujourd'hui notre émission à l'archéologie. Quand on parle archéologie, on pense souvent à des fouilles exotiques à l'autre bout du monde. Pourtant, ces trésors cachés se sont parfois situés tout près de nous, notamment sur notre territoire cannais. Et pour en parler de ces récentes découvertes, nous recevons ce midi Bénédicte Guillot, responsable de recherche archéologique à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Mais avant cela, c'est l'heure des infosciences de la semaine. Et on commence avec cette découverte, la maladie d'Alzheimer est transmissible par des hormones de croissance. C'est ce que vient de révéler une étude publiée dans la revue Nature Medicine. Tout part d'une expérience médicale qui nous ramène plus de 40 ans en arrière. Des patients avaient reçu des hormones de croissance dans l'espoir de traiter leur nanisme. Un traitement qui avait été retiré parce qu'il avait occasionné la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus connue sous le nom de vache folle. Et ce dont se sont aperçus les scientifiques, c'est que cette maladie, elle a été transmise par des hormones de croissance qui contiennent une protéine, les prions, protéines capables de déclencher des maladies neurodégénératives, dont la vache folle et la maladie d'Alzheimer. Voilà pour l'explication. Conclusion, on ne peut pas attraper la maladie d'Alzheimer, mais elle peut nous être transmise par cette protéine donc. Trois confrères de l'infectiologue Didier Raoult font face à une procédure disciplinaire ouverte par le gouvernement suite à la publication d'une étude décrivant des essais cliniques non déclarés sur des patients atteints du Covid. Leur article présente les résultats d'une analyse de plus de 30 000 patients traités en 2020 et 2021. Une analyse qui prétend démontrer les supposés bénéfices de l'hydroxychloroquine, un traitement, je cite, issu de prescriptions inappropriées et dangereuses et qui constitue un nouveau manquement aux règles éthiques et déontologiques, indique le ministère. La JDHU, la juridiction disciplinaire des personnels hospitalo-universitaires, préconise des sanctions telles qu'un blâme, un abaissement d'échelon, voire même une révocation. C'est une bonne nouvelle pour la biodiversité. Quatre nouvelles colonies de manchots empereurs ont été identifiées en Antarctique. Ce qui a mis les scientifiques sur la piste, ce sont des traces sombres sur la glace blanche, des traces d'excréments qui ont été repérées par satellite. L'intérêt de repérer les colonies par satellite, c'est aussi de pouvoir mieux prévoir les mesures de conservation en vue du réchauffement climatique. Au total, plusieurs centaines de manchots empereurs supplémentaires s'ajoutent aux quelques 250 000 couples présents en Antarctique. Le manchot empereur, une espèce emblématique que vous avez peut-être pu admirer dans le nouveau film de Luc Jacquet, Voyage au pôle Sud, 30 ans après la marche de l'empereur, ce qui laisse le spectateur contempler la beauté fragile de l'Antarctique. Et on termine par cette étude japonaise qui se penche sur le vol particulièrement silencieux des chouettes qu'ils ont réussi à expliquer. En fait, ces animaux possèdent sur le bord de leurs ailes des petits filaments en forme de peigne que l'on appelle des franges. Et pour essayer de comprendre leur rôle, ils ont fait l'expérience grandeur nature à l'aide de simulations hydrodynamiques et de modèles 3D. Résultat, les franges ne changent pas les performances de vol, mais elles réduisent bel et bien le niveau sonore produit par l'aile et plus précisément les tourbillons d'air qui peuvent se produire à la surface du plumage quand un oiseau vol, une diminution de presque 7 décibels. Un principe, c'est plus surprenant, qui pourrait servir à la conception de pales de drones ou de turbines pour réduire leur bruit.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
En décembre dernier, des archéologues ont fait d'étonnantes découvertes sur un chantier du château de Caen, alors qu'ils effectuaient des fouilles préventives en vue de travaux de réaménagement.
Et parmi ces vestiges, des objets mais aussi des murs pour certains vieux de plus de 900 ans.
Et pour revenir sur toutes ces trouvailles, nous recevons Bénédicte Guillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de recherche à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et c'est vous qui êtes la responsable de ces fouilles. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi des fouilles ont été menées sur ce lieu ?
Alors tout le château de Caen, comme je pense tous les Cannais le savent et aussi les touristes, est en travaux puisqu'il y a une complète restructuration du château. Et en parallèle, on suit les travaux puisque tout ce qui va impacter le sous-sol, on renseigne puisque le château de Caen est un monument historique.
Les fouilles sont préventives, c'est quelque chose qui est toujours mis en place avant des travaux de cette ampleur ?
Des travaux de cette ampleur, oui, sur des sites monuments historiques également. Et puis, donc, il y a une loi française que pas mal de gens nous envient, puisque à partir, soit si c'est du centre-ville avec un zonage archéologique, soit si c'est à l'extérieur, mais sur des grandes surfaces, il y a des prescriptions d'abord de sondage, de diagnostic, et après, si c'est quelque chose, c'est la DRAC qui juge. Mais là, quand c'est un monument historique, de toute façon, dès qu'il y a des travaux dans un monument historique, on intervient en tant qu'archéologue.
Et les travaux, ils ont démarré déjà il y a quelques mois, hein, si je ne me trompe pas. Ils vont encore durer un petit moment ?
Oui, on a commencé mi-avril, tous les travaux. Et normalement, ça, c'est destiné à être réouvert complètement en 2025. Donc, tant qu'il y a des travaux au château de Caen, en fait, il y aura des archéologues qui vont les suivre.
Et donc, on l'évoquait en introduction, vous y avez découvert des vestiges, notamment d'une ancienne entrée du palais ducal, qui daterait donc du XIIe siècle, c'est bien ça ?
C'est ça. Pour l'instant, on dit XIIe siècle, puisqu'on est encore en cours, donc on n'a pas tout étudié. Mais en effet, on a trouvé quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que l'entrée du palais ducal sous les ducs de Normandie était aussi protégée par un fossé et par une tour. Alors, c'est pas la grosse tour maîtresse, mais c'est une tour qui protégeait une entrée du palais et qui a été totalement détruite au XIIIe siècle.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cette pièce qui a été découverte ? Où est-ce qu'elle se trouve et comment est-ce qu'elle est agencée exactement ?
Alors, on est vraiment juste au sud, juste devant ce qu'on appelle le Vieux Palais. Donc, il y a, si on est devant le Vieux Palais, on a à gauche la salle de l'échiquier et à droite, on a le donjon. Et juste à cet endroit-là, le palais s'avançait un petit peu sur ce qui était de l'herbe jusqu'en avril. Et là, on a d'un côté une base de tour avec un fossé, un chemin qu'on a retrouvé, qui est assez bien fait, hein, en caillou calcaire. Et puis après, on a un mur qui ferme une pièce. Donc on devait passer devant la tour pour rentrer dans le palais qu'on voit encore maintenant, dont les vestiges sont encore visibles.
Et cette tour, aujourd'hui, est-ce qu'elle est en bon état ? Est-ce que, comment est-ce qu'elle
Alors,
apparaît ?
Elle a été en partie détruite, donc on ne la voit plus du tout en élévation, puisque quand Philippe Auguste conquiert la Normandie au tout début du XIIIe siècle, il détruit cette entrée fortifiée puisqu'il fait son château avec le donjon tel qu'on le connaît maintenant. Et donc il a complètement arasé. Par contre, tout ce qui était en sous-sol et le fossé, il a comblé une partie du fossé des ducs de Normandie. Donc dès qu'on est dans le sous-sol, par contre, on a Alors, on n'a pas atteint le fond du fossé, mais on a plus de 2 mètres de tour qui est encore visible.
Mais donc, c'est quoi ? Ce qui a été trouvé en souterrain, ça permet au moins déjà d'avoir une idée sur ce à quoi ressemblait cette tour avant la destruction ?
Oui, c'est ça. On va pouvoir au moins avoir peut-être le plan. Après, on va essayer d'imaginer, c'est certainement une tour, genre un peu un poste de garde, hein. C'est pas non plus une tour énorme, mais c'est une tour quadrangulaire. Donc, on a assez d'éléments pour essayer de restituer un petit peu à quoi elle ressemblait.
Et cette tour et tous ces éléments qui ont été découverts, qu'est-ce qu'ils peuvent nous révéler sur le château de Caen et même sur la ville en général ?
Alors sur le château de Caen, c'est assez important parce que jusqu'à cette découverte-là, on ne savait pas trop comment se faisait la limite entre tout ce qui était du palais et tout ce qui était la vie quotidienne, puisque le château de Caen est très grand, il fait 5 hectares. On a l'église Saint-Georges et autour de l'église Saint-Georges, on a de l'habitat civil. Et par contre, tout au nord, avec le donjon et la salle de l'échiquier, là, on est dans le palais. Et donc, on ne savait pas trop qui était du domaine des ducs de Normandie. Est-ce qu'il y avait une séparation par un fossé ? Est-ce que les gens pouvaient se promener et ressortir, puisqu'il y avait un accès pour aller directement à ce qui est maintenant l'université ? Donc, on ne savait pas du tout si c'était... Comment est-ce que les gens pouvaient passer et traverser le palais ? Pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de fossé et que c'était en accès libre. Et maintenant, on voit que non, il y avait quand même une séparation, un vrai mur... qui faisait qu'on ne pouvait pas rentrer dans le palais un peu comme ça, sans faire attention, on était obligé de passer devant le poste de garde, on va dire.
Et donc, pour en revenir à la recherche en tant que telle, au moment où vous tombez sur ce vestige, est-ce que vous dites tout de suite que c'est une tour, enfin que c'est un morceau de tour, ou est-ce que au premier abord, on ne sait pas trop si vous venez de découvrir un truc particulier ?
Alors déjà, on était content d'avoir une maçonnerie. Donc on a commencé à trouver une maçonnerie, puis une deuxième maçonnerie. Après, un niveau de circulation, donc on a vraiment le sol avec des ornières. Donc on touche quand même quelque chose d'assez important. Ensuite, on se rend compte que c'est détruit au début du XIIIe siècle par le donjon. Donc on est sûr que ça fait partie des ducs de Normandie. Et puis plus on avance, plus on voit que la tour, comme toutes les tours de fossé, le mur il n'est pas vertical. Il est penché, il est alluté. Et donc là, on commence à suivre en se disant, ça veut dire qu'il y a un fossé. Et donc, on essaye d'imaginer et on reprend un petit peu tout ce qu'on disait avant et on change l'histoire du château. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel.
Et qu'est-ce qui peut faire qu'elle n'ait jamais pu être découverte auparavant, ce vestige de cette tour ? Pourquoi maintenant, c'est vraiment les travaux en tant que tels qui font qu'on a creusé là et donc qu'on l'a un peu trouvé par hasard ? Ou est-ce qu'avant, il n'y avait pas déjà eu des idées de se dire, il y a peut-être quelque chose ici ?
Non, pas du tout. C'est vraiment parce que... Alors, pour les Canets, il y avait vraiment le Vieux Palais qui était délimité. Et l'idée était que le palais s'arrêtait un peu aligné à la salle de l'échiquier jusqu'au donjon. Et donc, on avait une clôture qui n'existera plus maintenant, mais matériellement, il y avait une clôture avec d'un côté le vieux palais et de l'autre côté, il y avait de l'herbe et après le chemin où on longeait le donjon. Et cette herbe-là n'avait jamais été observée puisque l'idée était que le palais s'arrêtait avant, puisque ça avait été démoli depuis 700 ans. Donc, on avait vraiment l'impression, on imagine souvent des palais enfin, bien rectangulaires. Donc, on s'était dit, on va tracer un trait entre la salle de l'échiquier et puis tous les bâtiments qu'il y a, puisqu'il y a l'ancienne chapelle, il y a des bâtiments. Donc, on se dit, bah, ça, c'était la limite du palais. Mais avant le XIIIe siècle, elle n'était pas du tout là.
Et pour qu'on se représente bien, les premières pierres de cette tour, elles ont été découvertes à quelle profondeur à peu près? Est-ce que c'était vraiment...
Ah ben c'est exactement sous l'herbe, c'est-à-dire l'herbe a été enlevée par l'entreprise qui fait les travaux. Moi, j'ai vu apparaître du mortier blanc. Donc au début, si c'est peut-être du mélange, ça peut-être de la... Et puis on commence à nettoyer, puis on voit un bout de mur, et puis on se rend compte qu'il est très grand. Et là, on se dit, ah, on est tombé sur vraiment quelque chose.
Ah oui, donc c'est moins enfoui que ce qu'on pourrait s'imaginer.
Oui, complètement. C'est-à-dire quand ça a été détruit, comme ça, là, ça a été détruit il y a longtemps... ils ont détruit tout ce qui était en élévation, enfin tout ce qui était au sol, mais après ils ne sont pas embêtés à détruire ce qui était dans le sous-sol. Et par hasard, il y a eu de l'herbe qui a été mise. Et c'est vrai que si on ne fouille pas, même si on l'enlève, on ne fait pas attention parce qu'il faut vraiment dégager pour voir que c'est... Donc même si après-guerre, ils ont refait de l'herbe dessus, personne n'est allé voir qu'il y avait quelque chose, mais c'est vraiment, vraiment au niveau du sol.
Non loin de cette tour se trouve également un chemin qui est fait de cailloux compactés en parfait état. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on connaissait, mais maintenant on peut vraiment définir. Maintenant, en même temps que la tour, ils ont aussi aménagé ce que j'appelle une cour palatiale, parce que c'est vraiment une cour qui est vraiment très grande, il va falloir mesurer, puisqu'elle fait vraiment plus que l'emplacement de l'ancien parking. Et c'est vraiment très bien fait puisqu'on l'a dégagé maintenant depuis 8 mois et on continue à marcher dessus. Et c'est des petits galets qui ont été enfoncés dans de l'argile, et ce qui fait un beau niveau de circulation. Là aussi, on sent qu'on est chez les ducs de Normandie, rois d'Angleterre, puisque pour aménager ça, c'est très long. Et ça veut dire que quand les gens arrivaient, par exemple, depuis l'église Saint-Georges, c'était vraiment tout plat. Et après, ils devaient voir d'un côté la tour maîtresse, le donjon, cette tour avec l'entrée du palais, la grande salle de réception, il y avait la prison aussi. Donc il y avait une vision un peu de tous les bâtiments officiels de pouvoir. Et au centre, quelque chose d'assez plat, qui est vraiment très très bien fait.
Mais du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce chemin aujourd'hui qui a été, entre guillemets, déterré, peut être réutilisé, enfin pourra être réutilisé aujourd'hui?
Alors il ne pourra pas être réutilisé parce que nous on marche dessus, mais pour l'instant ça, il est vraiment bien, mais ça veut dire qu'après, avec les engins mécaniques, etc., là c'était pas fait pour. Donc ça va être remis, mais on l'a mis assez en évidence pour pouvoir restituer aussi l'emplacement de cette grande cour.
Et pour le coup, qu'est-ce qui fait qu'il a été aussi bien conservé?
Là aussi, c'est personne n'est allé en dessous. Personne ne l'avait dégagé depuis avant les fouilles archéologiques. Et il est tellement bien enfoncé dans de l'argile et bien aménagé que même à fouiller, c'est un bonheur. Il se décolle, la surface est parfaite parce que pendant très longtemps, les gens ont dû marcher dessus. Et puis après, il a été enseveli lors des démolitions successives et jamais personne n'est revenu dessus avant les travaux.
Au-delà de cette entrée, vous avez trouvé de nombreux objets. Quels sont-ils exactement?
Alors, on a... les objets classiques qui sont des bouts de poterie, de la céramique, beaucoup de faune aussi, c'est-à-dire de matériel, d'animaux mangés, donc qui vont être étudiés. On a un petit peu de fer, on a un petit peu de choses comme ça. Et puis on a quelques éléments assez intéressants. On a pas mal maintenant de boulets en pierre, de boulets de canon en pierre. Et puis on a un modillon. Donc les modillons, ce sont les têtes qu'on voit sous les églises souvent, qui servent à tenir les charpentes. Mais au XIIe siècle, il n'y en avait pas que dans les églises, il y en avait aussi dans les grandes salles. D'ailleurs, il y en a encore dans la salle de l'échiquier. Donc on en trouve très rarement, parce que souvent, lorsque ça veut dire que le bâtiment est totalement détruit, et souvent ils cassent ce qui est décoré pour réutiliser la pierre. Et là, on a la chance de l'avoir. Et en plus, il représente un personnage moustachu, donc une belle moustache, qui est en train de souffler. Donc il a les joues bien gonflées et la bouche un petit peu pincée. Donc là, c'est aussi quelque chose assez exceptionnel. Et puis, plusieurs graffitis, dont deux un peu vraiment importants. Donc les graffitis, on aime bien parce que c'est quelque chose, c'est de la vie quotidienne, puisque c'est quelqu'un, la pierre de Caen est très facile à graver. Donc ça veut dire qu'avec son couteau, la personne peut faire ça. Et donc on a d'abord un oiseau, une bécasse des bois, qui est vraiment très bien faite, probablement par un tailleur de pierre d'ailleurs, parce que là, c'est pas un couteau, c'est un outil spécial. Et puis surtout, on a un graffiti exceptionnel qui représente un chevalier qui poursuit un dragon qui s'envole et qui crache du feu. Donc là, c'est totalement inédit.
Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est ces motifs qui ont été dessinés? Qu'est-ce qu'ils veulent dire?
Alors, le dragon avec le chevalier, alors ça peut être soit Saint-Georges, mais là, ça fait vraiment de l'art. Moi, j'imagine plutôt quelqu'un... Alors, au XIIe siècle, on est dans la... Au XIIe ou XIIIe siècle, on est dans la grande période en France où se diffusent toutes les histoires autour des chevaliers de la Table Ronde et du roi Arthur. Et donc, à peu près tous les chevaliers luttent contre des dragons. Il devait y en avoir partout parce que tous les chevaliers luttent contre un dragon. Donc là, on imagine plutôt... Moi, j'imagine quelqu'un qui a écouté une histoire comme ça et qui, à la suite de l'histoire, a vu et a voulu transmettre. Alors, normalement, c'est interdit de graver sur les pierres, mais bon, tant pis, tant mieux même pour nous, mais qui a voulu imaginer un moment, une scène très importante de cette histoire et qui a gravé ce qu'il voyait, enfin, ce qu'il a imaginé quand il a entendu cette histoire. Donc, c'est vraiment quotidien, c'est vraiment la vie quotidienne.
Est-ce qu'on peut identifier ces personnes qui sont représentées à travers ces graffitis ou ces gravures? Est-ce qu'on a une idée, au-delà peut-être de leur rôle social, de qui est-ce que ça pourrait être précisément, ou c'est difficile de le dire?
Là, ça va être très difficile. Alors, pour la Bécasse des Bois, comme c'est vraiment avec un outil tailleur de pierre, donc ça doit être un tailleur de pierre. En revanche, pour le dragon, justement, là maintenant, on va se tourner vers les gens qui travaillent sur ces histoires-là pour savoir si c'était diffusé dans toute la société, ces histoires de dragons et de chevaliers, ou si c'était quand même une certaine classe sociale. Mais autrement, on va avoir vraiment beaucoup de mal à identifier qui l'a fait.
Et on ne peut pas peut-être aussi imaginer que ça puisse être, qu'il y ait aussi éventuellement un côté décoratif. Avec ça, ce n'est pas quelque chose qui se faisait?
Non, ça ne se faisait pas. Et en plus, c'est vraiment fait à la pointe du couteau. Donc, ce n'est pas visible. C'est-à-dire, là, c'est vraiment le collègue qui était en train de travailler. Et comme nous, on a vraiment les yeux sur la pierre, il a vu apparaître un trait, deux traits, trois traits. Mais autrement, si on passe juste à côté, on ne le voit pas.
Ah, c'est vraiment discret,
discret. C'est vraiment discret parce que c'est vraiment le couteau qui a fait la gravure. Mais c'est un geste, c'est en une fois. C'est pas... Donc là, c'est vraiment quelque chose plutôt de la personne qui a voulu transmettre une vision qu'il avait, lui, de cette histoire.
Et au-delà de la gravure, sur les autres objets qui ont été trouvés et dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui révèle aussi sur le lieu? Est-ce que ça permet d'en apprendre de nouvelles choses?
Oui, complètement, parce que on n'utilise pas du tout les mêmes vaisselles, donc ça permet de dater déjà. Donc pour l'instant, je reste un peu vague, mais la datation sera plus précise. Et en plus, comme d'habitude, si on est dans le palais, la vaisselle qui est utilisée dans le palais n'est pas du tout la même que celle qui est utilisée en cuisine, déjà pour la préparation des repas, ni la même qu'elle est utilisée par les domestiques. Donc on va pouvoir savoir à peu près ce qu'on a trouvé, d'où ça vient.
On continue de parler des découvertes archéologiques du château de Caen avec vous, Bénédicte Guillou. Mais avant, on va faire une pause musicale et écouter Happy I Am de Oumi. À tout de suite dans C'est pas faux.
I love you. Blue flowers in my heart, a garden.
C'était Happy I Am de Oumi, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Et aujourd'hui nous parlons des récentes découvertes archéologiques du château de Caen en décembre dernier avec Bénédicte Guillou, responsable de recherche à l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Alors certains objets qui ont été trouvés sont beaucoup plus modernes que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, puisque vous avez aussi retrouvé des bouteilles de bière britanniques qui dataient de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. On travaille beaucoup sur le Moyen-Âge, mais on travaille sur toute la période du château. Le château existe jusqu'à maintenant. Donc toute la période de la Seconde Guerre mondiale est également renseignée. Et on a énormément de trous de bombes un peu partout dans le château qui ont été comblés, donc soit avec des gravats des bâtiments, mais on a au moins à trois trous de bombes comblés avec des bouteilles de bière britanniques, made in England, avec les marques britanniques, énormes, vraiment. Enfin, il y a un trou de bombe qui est comblé presque qu'avec la même bouteille, type de bouteille de bière qui devait faire partie du paquetage des soldats britanniques qui occupaient le château après-guerre. Et donc là aussi, on renseigne, ça fait partie de l'histoire du château.
Et on sait comment elles sont arrivées là, ces bouteilles?
Bon, on imagine que plus que de boire de l'eau, ils avaient plutôt les bouteilles. Et comme elles sont britanniques, ça veut dire que ça faisait partie... voilà, c'était dans la ration, il devait y avoir de la bière, hein, comme je pense les Français avaient pareil. Et donc, les bouteilles s'entassaient beaucoup. Et comme les trous de bombe étaient encore là, c'était assez simple d'évacuer ça dans le trou de bombe.
Et ça nous dit quoi aussi sur cette période? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que ça a une valeur historique de retrouver ces bouteilles?
Alors, c'est plus qu'une valeur scientifique ou historique, parce que c'est déjà la vie quotidienne, et puis c'est aussi, ça a une valeur mémorielle maintenant. C'est-à-dire tous les objets qu'on trouve de cette période-là, pour s'en souvenir aussi, parce qu'on pense à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a les Allemands, donc on a aussi du mobilier, un peu de mobilier allemand qu'on a retrouvé, comme un étui de pelle, par exemple, allemand, ou des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'aussi, là, juste après-guerre, le château était occupé aussi par les Britanniques. Et c'est vrai que là, on a un peu tendance à l'oublier. Et là, ça permet de garder cette mémoire du château.
Et justement, on va poser la même question que tout à l'heure sur les vestiges de l'entrée. Mais quand on trouve ces objets, comment est-ce qu'on sait qu'ils appartiennent au passé et qu'ils ont de la valeur historique, vraiment?
Alors, la plupart du mobilier qu'on a, par exemple les bouts de céramique, par exemple, on peut les dater assez précisément puisque l'évolution des techniques et surtout des goûts. Donc, on sait exactement de quand c'est et ça nous renseigne sur toute l'évolution du château. Donc, de toute façon, tout le mobilier qu'on a, on le garde au début pour déjà faire les études. Et après, c'est donné à l'État et après, ça va revenir de toute façon au musée avec un tri parce que, bien sûr, on va pas peut-être... si on a un trou de bombe rempli avec plein de fragments de fer, on va pas garder tous les fragments de fer ou des ressorts de lit. C'est pas très intéressant. Par contre, on les renseigne. Mais après, on fait un tri. Mais de toute façon, tout le mobilier qu'on trouve, là, on le renseigne, ça fait partie de l'histoire du château.
Est-ce que tout ce que vous avez trouvé, de la tour jusqu'au modillon, même jusqu'aux bouteilles de bière, tout ce dont on parle depuis le début de l'interview, est-ce que tout vous a surpris ou il y a des choses auxquelles vous vous attendiez peut-être plus que d'autres?
Alors, bon, par exemple, les bouteilles de bière, on en avait déjà trouvé un petit peu à d'autres endroits, puisque, en tout cas, pour ma part, moi, je fouille au château dès qu'il y a des travaux depuis 2005, donc on a déjà pas mal fouillé. Bon, la tour, c'était totalement inédite. On a énormément de maçonnerie. Et puis, en mobilier, on a toujours des surprises, parce que même si on connaît les céramiques, la faune, une fois que ça va être étudié, on va peut-être avoir pas mal de surprises. Et là, bon, les graffitis, c'est toujours du bonus, donc c'est parfait.
Et sur l'étude justement de ce qui a été trouvé, j'imagine qu'elle a déjà commencé et est-ce qu'elle va aussi prendre du temps? Est-ce que tout ne va pas révéler ses secrets entre guillemets tout de suite?
Oui, la majorité du temps, puisqu'on va finir de fouiller et ensuite, alors déjà il faut laver parce que c'est un peu sale. Et après, une fois que les travaux sont finis au château, on a 2 ans pour rendre le rapport. Et donc c'est là où tous les collègues spécialistes vont récupérer... les ossements animaux, la céramique, mais c'est une fois qu'on aura tout fini de fouiller. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre pour avoir vraiment tous les renseignements précis.
Vous ne pouvez pas commencer les études avant d'avoir terminé les fouilles?
C'est surtout que pour étudier, c'est mieux de savoir, de connaître tout le lot, parce qu'autrement, comme on revient à un même endroit, c'est idiot qu'elle commence à travailler sur, par exemple, quelques fragments de céramique, et puis juste à côté, il va y avoir une plantation d'arbres dans 2 mois, et là, on va avoir la suite. Donc c'est mieux d'attendre la fin, c'est pour ça que souvent on attend la fin et que les vrais renseignements seront beaucoup plus tard.
Et le but maintenant, ce sera de déterminer quoi? C'est quoi la prochaine étape?
Alors déjà, c'est de continuer le suivi de travaux et après de faire un petit peu une synthèse de tout, puisque grâce à ces travaux qui ont lieu sur l'ensemble du château, alors que d'habitude on est surtout sur des petites portions, là on va avoir une vue de tout le château. Donc à terme, une fois que ça sera étudié, on va vraiment pouvoir restituer l'histoire du château depuis l'origine, on espère depuis Guillaume le Conquérant, au moins depuis les ducs de Normandie jusqu'en 44, et on va pouvoir voir exactement, avoir beaucoup plus de renseignements, donc on va refaire toute l'histoire du château.
Et quels sont les différents outils, quand vous allez pouvoir commencer les études, que vous, archéologues, vous allez avoir à disposition pour comprendre un peu les secrets de ces objets? Est-ce que la technologie vous permet aussi d'aller plus vite?
Alors moins plus vite, mais plus dans le détail. Donc il y a des choses où on regarde le mobilier, mais maintenant c'est vrai qu'on peut regarder, par exemple pour les céramiques, on regarde les pâtes. Et puis, en lien avec l'université de Caen, on fait des études chimiques des pâtes pour certains modèles de peau, souvent des pichets à vin, pour savoir d'où ils viennent. S'ils viennent de la plaine de Caen, s'ils viennent de plus loin, ça permet de savoir l'origine, puisqu'on a l'origine de l'argile qui a servi à faire la pâte. Pareil, on va faire les datations C14, on va faire toutes ces datations bien précises et aussi les datations des mortiers. On va étudier les mortiers des murs, parce qu'on a tellement de murs, normalement on se dit pour une même période, ils utilisent à peu près la même type de mortier. Et donc ça aussi, ça va être étudié chimiquement. Et puis on a fait aussi énormément ce qu'on appelle des photogrammétries, c'est-à-dire c'est une technique de prise de photo qui permet de faire des modèles 3D. Et donc après, tout ce qu'on trouve est un modèle 3D, donc on va pouvoir les relier un par un. Et après, ça ne vaudra peut-être pas le coup, mais à certains endroits, on pourra presque faire du virtuel pour rentrer dans, par exemple, la tour qui va être ensevelie, on pourra la ressortir et on pourra avoir le modèle 3D. Donc tout ça, c'est déjà en cours de traitement.
Maintenant démarre également un travail entre historien et archéologue. Comment est-ce qu'il se fait cet échange?
Alors là aussi, on attend d'avoir fini, mais on est déjà en lien avec plusieurs historiens, dont un qui travaille déjà sur le château de Caen et qui lui a déjà des textes. Donc l'idée, ça va être un peu de comparer ce que nous, on a trouvé. Et puis lui, ce qu'il a fait, les gens qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la caserne, quand le château était une caserne, il y a déjà donc, de l'iconographie, il y a des gens qui ont les documents. Et donc là, une fois qu'on a fini de fouiller, on va arriver, nous, avec nos photos, nos plans et ce qu'on pense être. Et eux, on va essayer de comparer pour essayer de voir, pouvoir restituer un petit peu plus, pas pour le XIIe siècle malheureusement, parce que là, il n'y a pas de texte sur le XIIe, mais sur toute la période après. Là, on a assez de textes pour pouvoir comparer et justement apporter, ne pas faire comme s'il n'existe pas les textes ou les plans qui sont sur le château de Caen.
Et en termes de conservation de ce qui a été découvert, qu'est-ce qui va être mis en place pour garder ces objets? Et vous le disiez tout à l'heure, peut-être que tout ne sera pas gardé non plus.
Alors, il y a une partie qui ne sera pas gardée parce que ce n'est pas la peine de garder. Comme je disais, si on trouve des ressorts de lit, on ne va pas garder non plus tous les blocs de pierre des bâtiments démolis. On en garde ceux qui sont les plus intéressants, mais les autres sont photographiés de toute façon, renseignés, mais on ne garde pas tout non plus. En termes de conservation, donc des vestiges même, de toute façon, par exemple la tour, la base de tour, il devait y avoir un réseau, puisqu'on est en travaux. Là, vu l'importance archéologique, la DRAC a demandé à ce que le réseau soit dégagé, soit enlevé. Et donc là, ça va être simplement réenseveli. Donc on remarchera dessus, ça sera préservé. Par contre, tout le mobilier va être donné à la DRAC et dévolu au musée de Normandie. Et bien sûr, après, à terme, il y aura une exposition pour que les gens puissent voir ce mobilier.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qui a été trouvé sera accessible au grand public.
Voilà, une partie sera accessible. C'était déjà maintenant, il faut attendre la fin de la fouille, mais de toute façon, c'est déjà avec le musée de Normandie pour bien sûr intégrer ça et que les gens puissent le voir.
Vous-même, vous explorez le château de Caen depuis de nombreuses années, depuis 2005, vous l'avez dit. Est-ce que ces découvertes, elles ont quelque chose de spécial par rapport à d'autres découvertes qui ont pu être faites par le passé?
Oui, oui. Alors en partie, c'est-à-dire il y a des choses qui, comme la cour palatiale, on avait déjà des petits fragments. Là maintenant, on va pouvoir l'étudier en plus. Par contre, l'entrée fortifiée du palais, là, ça remet en cause l'histoire du château et aussi tout ce qu'on a déjà dit. C'est-à-dire tout ce que j'ai écrit sur l'histoire du château, il va falloir réactualiser puisque c'est complètement changé maintenant.
Ça remet quasiment tout en cause ou quand même
la
base?
Pas en cause, mais par exemple au XIIe siècle. La relation entre justement le côté sud du château qui est plutôt public et le côté nord qui est palais est totalement remis en cause. C'est-à-dire depuis en juin, quand je faisais la visite du château, je disais des choses fausses. En tout cas, on mettait des hypothèses qui ne sont plus du tout d'actualité puisque maintenant on a une base de tour et on a un fossé. Donc ça veut dire que ça remet en cause la vision du château au XIIe.
Donc comme quoi l'histoire évolue aussi grâce à l'archéologie en permanence, elle n'est pas figée.
Oui, complètement. C'est d'ailleurs souvent ce que je dis en disant je vous dis quelque chose, puis dans 3 mois, Je vais peut-être vous dire, bon, ben, en vrai, c'est pas ça. Faut imaginer, alors il y a une partie quand même qui est toujours là, mais quand même, là, les fouilles vont vraiment remettre. La vision du château au 12e vient vraiment de changer totalement.
Mais ça veut dire qu'on peut aussi imaginer bientôt refaire de nouvelles fouilles, même s'il n'y a pas de travaux prévus derrière, mais sur d'autres endroits du château qui pourraient aussi à nouveau apporter de nouveaux éléments. On peut imaginer qu'avec ce qu'on a trouvé, il y a encore des tas de choses enfouies.
Oui, c'est certain qu'il y a encore d'autres endroits, même dans le donjon même, il y a encore des choses à voir, même si ça a été beaucoup fouillé par Michel Deboire. Mais dans d'autres endroits du château, on sait pas où se trouvent les prisons du Moyen-Âge. Et ce qu'on a fait juste un sondage et on a vu apparaître à 5 mètres de profondeur les premiers graffitis des prisonniers. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus... ils ont eu le temps de le faire. Sauf que c'est vers le Monument aux Morts, donc c'est long de la fortification quand... au nord-nord-est, et là c'est pas touché par le château, par les travaux, et ça va pas être touché tout de suite, donc on va pas tout de suite faire des travaux de toute façon, mais il y a d'autres endroits du château où il reste encore beaucoup des vestiges.
Eh bien, en tout cas, on espère donc trouver de nouvelles choses. Merci beaucoup à Bénédicte Guy d'être venu à notre micro. Je rappelle, donc vous êtes responsable de recherche à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, et c'est vous qui êtes la responsable des fouilles du château de Caen. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Encore merci à Bénédicte Guillot d'avoir été à notre micro ce midi. C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence notre agenda avec le Dôme qui vous propose ce mercredi un atelier papier connecté pour découvrir comment il est possible d'associer papier et numérique. L'idée est de créer un ouvrage connecté autour du thème de la pollution plastique, preuve que le papier ne cesse d'évoluer. Pendant 2 heures, vous pourrez concevoir un livre agrémenté de sons, de vidéos et de photos. Rendez-vous donc demain mercredi à 14h et pour y participer, c'est sur leur site que ça se passe. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ledôme.info. Et puis également à venir, cela concerne davantage les étudiants. L'université vous ouvre ses portes ce samedi de 9h à 17h. Vous pourrez notamment vous rendre aux UFR de sciences ou encore de santé. Pour plus d'infos, rendez-vous dans la rubrique Portes ouvertes du site de l'Université de Caen. Et comme chaque mardi, votre recommandation documentaire avec cette semaine, une enquête de santé consacrée à la pénurie des médicaments. Ce sont près de 4000 qui sont concernés, dont certains sont vitaux pour les malades. Les causes sont multiples, entre mondialisation, embargo économique et hausse de la demande. L'émission sera suivie d'un débat avec des professionnels de la santé. Enquête de santé, médicaments, la grande pénurie, c'est ce soir à 21h05 sur France 5. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Nathan, à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Johan pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.
C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.